Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Enva. Réalisée par Clotilde Pivin. Préparée par Marie Dalquier. Avec à la prise de son Éric Boisset. Aujourd'hui, nous recevons Marie de Henzel pour parler de la fin de vie. Marie de Henzel, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Lélie.
Bonjour Frédéric. Bonjour Marie de Henzel. C'est un bonheur de vous recevoir aujourd'hui aux Racines du Ciel. Vous êtes psychologue clinicienne et psychothérapeute. Vous êtes passionnée par la vie. La vie jusqu'au bout, dans sa plénitude, sa pleine dignité et sa beauté. C'est pourquoi quand j'entends dire de vous, ou que je lis dans vos biographies que vous êtes une spécialisée dans la fin de vie, je ne sais pas si c'est si juste, mais bon, il faut bien appeler les choses par leur nom. Je ne sais pas si c'est juste que cela pour vous, parce que la vie, c'est la vie du début à la fin, de la naissance, voire de même de son apparition dans le ventre maternel, jusqu'à la mort qui, d'une certaine façon, en fait partie pleinement. Et c'est souvent ce que vous dites dans vos ouvrages. Vous avez travaillé au sein de la première unité des soins palliatifs en France, ce témoignage que vous racontez dans La mort intime, préfacé par François Mitterrand. Puis vous avez été chargé de mission au ministère de la Santé sur justement ces questions de fin de vie. Votre rapport, fin de vie, le devoir d'accompagnement, est à l'origine de la loi Léonetti. Depuis 8 ans, vous vous intéressez à l'expérience de vieillir, parce que ça fait aussi partie de la fin de vie, même si c'est une forme de recommencement, et vous animez des séminaires sur le vieillir heureux, ainsi que des ateliers dans des résidences pour personnes âgées, dont l'objectif donc, de ces ateliers est de prévenir la mauvaise vieillesse en restaurant l'estime de soi. Dans La sagesse d'une psychologue, loin des doctrines à l'écoute de l'âme, reparu chez Pocket en 2012, ce qui est d'ailleurs un signe de succès hein, quand un ouvrage reparaît chez Pocket, donc dans cet ouvrage, vous retracez votre parcours et vous nous invitez à nous rendre compte qu'accompagner les autres dans la mort, c'est une façon de grandir soi-même et peut-être aussi d'apprendre à mourir, ce qui est, selon Socrate, n'est-ce pas, la grande affaire de la philosophie et de la sagesse.
Alors Marie de Henzel, on va parler de beaucoup de choses dans cette émission avec vous, mais j'aimerais qu'on commence par l'actualité, puisque au moment où cette émission va être diffusée, elle a enregistré quelques semaines avant, au moment où cette diffusion va être diffusée, un rapport aura été rendu au président de la République concernant la fin de vie. Donc j'aimerais qu'on commence par cette question de l'euthanasie au sens très large, mais de toutes les questions connexes, pour savoir qu'est-ce que... C'est une question qui vous intéresse beaucoup, vous avez travaillé là-dessus, vous faites partie des gens qui sont auditionnés. Qu'est-ce que vous pensez de cette question et est-ce que vous avez une idée de ce que ce rapport va donner?
Alors d'abord, je crois que contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas une majorité de gens qui sont pour une légalisation de l'euthanasie. On nous dit à tort qu'il y a 92% des gens qui sont pour, 92% des gens sont pour une mort dans des conditions dignes, mais ça ne veut pas dire pour l'euthanasie. Donc on sait maintenant, et le comité d'éthique vient de le dire, qu'il y a en fait, il n'y a pas de convergence, de rassemblement en France sur cette question. Il y a une division, il n'y a pas non plus de consensus autour de la question du suicide assisté. Par contre, il y a un large consensus autour de l'idée que l'on doit pouvoir mourir sans souffrir, en bénéficiant aussi d'un non-acharnement thérapeutique, en étant accompagné. Et je pense qu'on ira plutôt vers une nouvelle loi qui sera une loi Léonetti améliorée, si on peut dire, parce qu'il y a déjà une loi qui va très loin, mais qui est peu appliquée et mal connue, et elle a besoin de quelques améliorations. Je crois savoir qu'on ira plutôt dans ce sens.
Mais, alors expliquez-nous un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le sujet, qu'est-ce qu'on appelle par rapport à ça l'euthanasie et le suicide assisté?
L'euthanasie, c'est l'acte délibéré de donner la mort. C'est l'injection qui va entraîner tout de suite la mort de quelqu'un.
Donc alors c'est pas que seulement...
Ça, c'est interdit par la loi, alors que de donner des antalgiques, même si ça écourte la vie, c'est légal, c'est possible.
Hein. Donc l'euthanasie, c'est un suicide assisté, d'une certaine manière.
Le suicide assisté, c'est procurer à quelqu'un un produit qu'il va prendre lui-même pour mettre fin à ses jours.
C'est ce qui se pratique en Suisse, je crois.
Ce qui se pratique en Suisse, alors que l'euthanasie, c'est le médecin qui va faire cet acte que la plupart des médecins trouvent un acte extrêmement violent et brutal et qui les laisse quand même avec quelque chose. Il ne faut pas oublier que les gens qui demandent l'euthanasie, ils vont mourir, eux, mais ceux qui les ont euthanasiés continuent à vivre. Et moi, en tant que psychologue, j'ai eu dans mon cabinet, j'ai reçu beaucoup de médecins, d'infirmières qui ont mis des années à surmonter cet acte. Ça montre qu'il n'est pas du tout anodin. Car dans notre, c'est quelque chose de fondamental. Ce n'est pas du tout un interdit religieux, c'est un interdit ontologique. Nous ne pouvons pas porter atteinte à la vie d'autrui délibérément.
Surtout quand on est médecin et qu'on a, on a fait le serment d'Hippocrate, qui évidemment va à l'encontre totalement.
Absolument. Je pense que pour revenir à l'actualité, je pense qu'on va s'acheminer plutôt vers une amélioration de cette loi, avec quelque chose qui me paraît important, c'est que d'écouter davantage ce que les gens souhaitent. Il y a un dispositif dans la loi actuelle qui s'appelle les directives anticipées ou la désignation de la personne de confiance. Certainement qu'on va rendre ces directives plus contraignantes pour le médecin. Il n'est pas normal que quand quelqu'un, par exemple, et ça, j'entends ça quotidiennement dans ma vie professionnelle en ce moment, quand une personne âgée dit « moi, je veux mourir dans mon lit, je ne veux pas être transférée à l'hôpital au dernier moment », quand une personne dit ça, ce n'est pas normal que le médecin ordonne son transfert aux urgences. C'est un non-respect des directives de cette personne.
Est-ce que vous pouvez aussi nous dire ce que dit la loi Leonetti ? Parce que c'est vrai que peut-être tout le monde n'est pas au fait, en détail, en quoi ça a été très important et ce qu'elle dit.
Oui, elle dit trois choses. Elle dit, si tu souffres, je te soulagerai, même si ce soulagement écourte ta vie. Si tu ne veux pas continuer à vivre et que des traitements te maintiennent en vie, y compris l'alimentation, qui quand elle est forcée, n'est plus un soin mais un traitement, j'arrête ce traitement qui te maintient en vie. Et je t'accompagne, je ne t'abandonne pas. Voilà ce que dit la loi. Et si tu as des désirs, des souhaits en ce qui concerne ta fin de vie, tu peux désigner une personne de confiance ou tu peux écrire tes directives anticipées. Voilà ce que dit la loi Leonetti.
Et alors, en quoi est-ce qu'elle peut s'améliorer ?
Que les directives soient devenues contraignantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'abord, il y a peu de gens qui les ont écrites, seulement 2% des Français. Mais en supposant que maintenant les Français se mettent à les écrire, il faut qu'elles soient suivies, il faut que le médecin en tienne compte. Je vous donnais l'exemple de ces personnes âgées qui veulent mourir dans leur lit, c'est pas normal qu'on les transfère aux urgences. Je pense aussi qu'il y a une amélioration qui peut être faite, je pense qu'on va aller dans ce sens, c'est-à-dire que si quelqu'un souffre physiquement et moralement et n'arrive pas à supporter que sa vie continue, je pense qu'on va aller dans le sens d'une sédation, c'est-à-dire de la possibilité de l'endormir. Ce qui est différent, à mon sens, de l'euthanasie, parce que ce n'est pas un geste brutal qui va immédiatement entraîner la mort. On endort quelqu'un qui va finalement mourir, en fait, de sa maladie, dans son sommeil. Mais on ne donne pas la mort en endormant quelqu'un. Je sais que des gens pensent que c'est hypocrite, qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre l'un et l'autre. Moi, je pense qu'il y en a une énorme pour celui qui fait l'acte. Je pense que le médecin qui fait une injection et qui voit les yeux de son patient se révulser devant lui, c'est quelque chose d'extrêmement brutal. Je pense que le médecin qui endort quelqu'un parce qu'il n'y a pas d'autre moyen que la personne l'a demandé, il l'endort dans un sommeil et au bout de 24, 48 heures, la personne va mourir, mais elle ne mourra pas de cet endormissement. Elle va mourir de l'évolution de sa maladie et du fait qu'elle n'est pas alimentée.
Oui, parce que j'allais dire, il y a des maladies mortelles. C'est-à-dire qu'il y a des maladies, on sait que la personne va mourir, si ce n'est pas dans 15 jours, c'est dans 2 mois. Et on comprend très bien qu'on peut abréger sa souffrance en disant on va le laisser mourir. Mais qu'en est-il des gens dont on sait qu'ils vont pas mourir, c'est-à-dire qu'ils sont dans une situation de désespérance intérieure avec un handicap ou quelque chose qui leur pèse énormément et qui demande à mourir. Là, on est devant encore un autre problème. Et est-ce que face à ces personnes qui disent je n'ai plus envie de vivre dans cet état-là, même si je peux très bien continuer à vivre parce que j'ai besoin de peu de choses pour y arriver, une petite assistance éventuellement alimentaire ou autre, mais oui. c'est des cas qui se posent de plus en plus.
Bon, Frédéric, là, vous touchez quelque chose, un débat qui n'a pas encore eu lieu. C'est-à-dire, c'est le problème de, est-ce que nous sommes une société qui, face à la souffrance de quelqu'un qui ne peut plus tolérer sa souffrance, est-ce que nous sommes une société qui va dire, bon, tu souffres, tu ne peux plus le tolérer, nous allons t'aider à mourir et nous allons t'aider à te tuer? Ou est-ce que nous sommes, ce que nous avons été jusqu'à maintenant, une société solidaire de la souffrance de l'autre, c'est-à-dire que face à l'autre, on l'aide à traverser sa souffrance, on l'aide à la supporter, hein, parce qu'on pense que la vie avec ses épreuves conduit un jour ou l'autre à pouvoir les traverser, les surmonter. Nous sommes là-dedans actuellement, mais on peut aussi basculer dans une société différente dans laquelle la souffrance n'aura plus sa place, sera en quelque sorte politiquement incorrecte.
Mais il me semble que c'est le débat qui a eu lieu en Suisse qui a permis la loi sur le suicide assisté. C'est un petit peu cette idée-là, parce que je crois qu'on aide aussi à mourir des gens qui ne sont pas forcément fatalement en fin de vie.
C'est ça. Alors, sauf qu'en Suisse, normalement, la personne doit être atteinte d'une maladie incurable. Mais effectivement, il y a eu des dérives. Il y a des personnes qui vont se faire aider au suicide et qui ne sont pas gravement malades. Donc, on voit bien toutes les dérives possibles. Je pense que si nous allons dans ce sens-là, nous changeons de société. Et le débat n'a pas encore eu lieu, hein.
C'est-à-dire, vous voulez dire en France, pourquoi le débat n'a pas eu lieu? Parce qu'on ne veut pas qu'il ait lieu? Parce que c'est trop clivant ou...
Parce que d'abord, il y a un énorme... Oui, c'est très clivant, il y a un énorme dissensus autour de cela. Vous avez des personnes qui disent, les personnes handicapées, souffrantes, nous sommes là pour les aider, pour les soulager, pour les aimer, pour les aider à porter leur épreuve, nous ne sommes pas là pour les tuer. Voilà ce que la plupart des gens disent. Mais il y a d'autres sons de cloche. Donc, c'est un débat clivant. Et je pense qu'il faut... C'est vraiment un débat que l'on n'a pas encore eu. Parce que ce sont les valeurs de notre société qui sont en cause.
Oui. Enfin, ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous mettez beaucoup en avant... le point de vue de ceux à qui on demande ça. C'est-à-dire, c'est vrai que la plupart du temps, dans les débats, on dit, après tout, on est libre. Si quelqu'un veut qu'on l'assiste à mourir, c'est sa liberté fondamentale. Ce qui m'intéresse beaucoup dans votre position, c'est que vous dites, oui, mais d'une certaine façon, sa liberté s'arrête là où commence la mienne. C'est-à-dire, il ne peut pas m'exiger de moi quelque chose que je ne peux pas lui donner. Un geste, un acte, quelque chose qui est trop engageant, qui est trop... c'est votre expérience, en fait, d'accompagnement de fin de vie qui vous dit ça aussi.
Oui, oui, bien sûr. C'est extrêmement difficile de demander à un autre de s'impliquer dans son suicide. Je pense que c'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle souvent les gens assument leur suicide de façon assez solitaire, mais qui est assez digne. Ils ne font pas porter cet acte à quelqu'un d'autre. Je trouve que la personne c'est les cas divers que l'on a eus, par exemple ce couple qui est allé se suicider dans un hôtel du Lutetia et qui dit « nous aurions préféré qu'un médecin vienne nous suicider dans notre chambre d'hôtel », je trouve ça, personnellement, c'est mon avis, mais extrêmement égoïste. Je veux dire, si on est capable de se suicider, je ne vois pas pourquoi demander à quelqu'un d'autre de le faire. C'est vraiment impliquer l'autre dans un acte qui, encore une fois, est grave sur le plan symbolique. Et oui, c'est ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Il y a aussi toutes ces personnes tous ces témoignages de personnes à qui quelqu'un qui veut aller se suicider et va en Suisse demande qu'on les accompagne. Par exemple, le fils d'une mère qui a été se faire suicider en Suisse et qui raconte qu'il a été mis dans une position impossible car ce qu'il avait envie de dire à sa mère, c'est « mais moi j'ai envie que tu vives ». Et ce n'est pas d'aller l'aider à se suicider. Et il était pris dans une double contrainte, quelque chose qui l'a rendu quasiment fou. Il ne s'en est sorti que parce qu'il a fait une analyse et qu'il a refusé d'ailleurs d'accompagner sa mère, ce qui lui a été reproché par tout l'entourage. On voit des situations terribles quand même.
Oui, c'est d'ailleurs le thème du film, du très beau film canadien « Les invasions barbares » où on voit effectivement le père qui demande à toute la famille, carrément à tous ses amis, de se réunir pour assister. Et ça déclenche évidemment des choses terribles chez tout le monde. Ça déstructure en fait et la famille et le cercle amical en fait.
Oui.
Je trouvais que c'était traité de manière très, très intéressante, justement, où il montre les ambivalences, en fait, de cette position.
Il y avait quelque chose d'intéressant dans les invasions barbares, c'était l'idée que quelqu'un peut partir en faisant un rituel. En conviant tous les amis, effectivement, en disant une dernière parole à chacun. Mais ce que j'ai trouvé un peu faux dans ce film, c'est l'idée que ça ne peut se faire qu'en absorbant un produit. Moi, j'ai vu pendant des années... Les années où j'ai travaillé en soins palliatifs, les gens convoquaient leur famille, dire une dernière parole, faire un véritable rituel d'adieu, et puis mourir dans les heures qui suivaient, mais mourir sans produit, mourir, partir de soi-même, parce que justement on a bouclé les choses.
France Culture, Les Racines du Ciel, Frédéric Lenoir, Lélie Onvar.
Alors, au-delà de cette question du débat autour de l'euthanasie ou pas, vous avez de toute façon une longue expérience d'accompagnement des mourants, des soins palliatifs. Vous aviez écrit un livre qui a eu un énorme succès, La mort intime. Vous parliez de tout ça. Ce serait bien que vous nous racontiez un petit peu ce qui vous a frappé dans cette longue expérience d'accompagnement des mourants. Qu'est-ce que vous avez appris de ce moment très particulier où les gens sont en train de vivre leurs derniers instants ?
J'ai appris que ce moment qui fait peur à tout le monde et qui est assez, finalement, tabou dans notre société, est effectivement, malgré toutes les émotions qui se vivent, un moment qui est, je dirais, exceptionnel. Et qui est un moment qui, à côté duquel, et je ne cesse de le dire, il ne faut pas passer. Parce que quelqu'un qui pressent l'approche de sa mort, et quand on est en soins palliatifs, en général, on est assez au clair sur cette approche de la mort, c'est quelqu'un qui va boucler sa relation avec les autres, qui va faire ce que Michel de Musan appelait le travail du trépas, c'est-à-dire les trois pas que l'on fait pour le passage. C'est une tentative, c'est une très belle expression, de se mettre au monde avant de disparaître. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire accoucher de soi-même. Et ça va se faire d'une façon, ça peut se faire d'une façon très simple, ça peut se faire d'un mot, d'un regard, d'une lettre qu'on envoie à quelqu'un. C'est quelquefois pas du tout spectaculaire, mais la personne sent très bien qu'elle est en quelque sorte un peu le point final qu'elle doit mettre dans sa relation avec les gens qui comptent. Elle va d'ailleurs avoir souvent... l'énergie de vivre jusqu'à la visite de quelqu'un qui est très loin et qui s'annonce, par exemple, la semaine d'après. Eh bien, moi, j'ai vu des gens rester en vie jusqu'à ce que cette visite arrive et puis mourir juste après. Et quand on dit aujourd'hui à quoi ça sert d'accompagner, puisque si quelqu'un est perdu, de toute façon, pourquoi ne pas abréger ses jours, justement ? Mais on manque cela. Et on manque quelque chose dont on n'a pas idée à l'avance, parce que, en quelque sorte, c'est la personne elle-même qui va conduire ce rituel. Pour ça, elle a besoin que les autres soient là. Il ne faut pas qu'ils soient derrière la porte, il faut qu'ils soient partie prenante de ce qui se vit. Alors, dans ces échanges, il y a beaucoup d'émotions, souvent, et c'est ce dont les gens ont peur. Les gens ont peur de pleurer, ils ont peur. Et moi, j'ai passé mon temps, en tant que psychologue, à dire aux familles, mais quelle importance ! Soyez vrai, dites ce que vous avez sur le cœur, dites, partagez les choses. S'il y a des larmes qui viennent, eh bien, ce sont des moments forts et vous ne le regretterez pas. Vous avez des personnes qui ont dit quelquefois à quelqu'un qu'il l'aimait alors qu'il ne l'avait pas dit depuis 30 ans. L'entourage reste avec ses paroles, avec ses gestes, avec ses regards. Et on ne mesure pas à quel point ça aide à vivre. Le deuil d'une personne qui a accompagné une autre est complètement différent. Le chagrin est là, l'absence physique est là, mais on reste avec ses paroles, avec ses gestes, avec ses regards. Et c'est, ça tisse comme une sorte de, oui, de linceul autour du mourant. Et c'est un vrai rituel, l'accompagnement. Et c'est un rituel qui déjà débute le rituel de deuil, en fait. Il n'y a pas de formation à l'accompagnement, mais non. C'est ça, je crois que non. Il y a peut-être des formations pour les soignants et les médecins qui sont confrontés quotidiennement à ces situations pour justement avoir la position juste. Mais un proche, il sait accompagner. Ça dépend de son histoire, de l'histoire qu'il a avec celui qui va mourir. Ça dépend de son âge, ça dépend de tant de choses, du mystère de la relation. Enfin, se faire confiance, oser. Et ça, je peux vous dire que c'est difficile parce que dans le milieu hospitalier, les gens n'osent même pas rentrer dans une chambre, n'osent même pas s'asseoir à côté du lit, n'osent même pas monter dans le lit. Moi, j'ai dit combien de fois j'ai dit aux gens, mais si vous le sentez, mais montez dans le lit, allongez-vous auprès de la personne, prenez-la dans vos bras. Alors les gens disent, c'est pas possible à l'hôpital, vous vous rendez compte? Maintenant, si
en
vous
fait,
le sentez,
c'est vrai que ça a déshumanisé profondément la mort de l'hospitalisation. Oui. C'est vrai que la relation qu'on a avec quelqu'un qui est en train de mourir dans son lit, ça n'a rien à voir avec le côté technique de l'hôpital, froid et plus impersonnel. Donc peut-être qu'effectivement déjà le fait de permettre à des personnes de mourir chez elles, ça peut changer beaucoup la relation avec leur entourage et ces derniers moments.
Oui, parce que c'est juste une question de présence, effectivement. Mais voilà, on est dans un monde tellement technique, comme vous disiez, tellement peu humain, souvent dans les hôpitaux, que les gens sont paralysés. C'est cette perte de la culture de l'accompagnement qui est le vrai drame aujourd'hui.
En fait. Alors c'est vrai aussi que c'est parce qu'il y a une sorte de peur de voir la mort qui n'existait peut-être pas avant. C'est vrai que, par exemple, la veillée était une chose très naturelle. On veillait les mourants, enfin, c'était presque un devoir religieux dans le temps. Et c'est vrai que de nos jours, ce qui devient difficile, ce n'est pas seulement le milieu hospitalier, c'est que je pense on a peur. C'est juste qu'on a peur de la voir en face. La mort est quelque chose qui fait très peur, beaucoup plus qu'avant, étrangement, alors qu'on a quand même tous les outils pour accompagner, pour que ce soit moins terrible que ça ne l'a été. Mais à quoi vous expliquez cela? À quoi vous attribuez cette
Mais on a peur parce qu'on n'a jamais vu mourir quelqu'un. Je peux vous dire qu'une personne qui a accompagné quelqu'un n'a plus peur. Elle a été là, elle a vu ce que c'était, elle a vu que c'était que quelqu'un pouvait s'éteindre tout doucement, comme une petite bougie, surtout si la personne est correctement soulagée, qu'elle ne souffre pas. Et après, on n'a plus peur. En fait, ce sont des fantasmes. On a sorti finalement la mort du domicile vers l'hôpital.
Tout à fait ce qu'on disait.
Cette extradition de la mort. La mort donc n'est plus intime, justement. Elle est médicalisée, elle est dans un milieu aseptisé. Et justement, on a perdu... On a perdu cette proximité.
Elle ne fait plus pas partie des éléments naturels de la vie. C'est-à-dire que voilà, la mort,
c'est plus naturel.
C'est naturel. C'est quelque chose qu'on voit, qu'on a vu quand ça se passait dans les campagnes. Ben, effectivement, on voyait les grands-parents mourir. Et puis, c'était quelque chose qui faisait partie de la vie. Alors que là, on l'a mis en dehors de la vie et comme quelque chose, mais ce qui est lié à tout ce refoulement de la mort dans le monde moderne dont vous faisiez référence, Lélie. C'est-à-dire qu'il y a quand même... D'ailleurs, par rapport à ça, je voulais vous questionner. Est-ce que vous avez l'impression qu'au cours des 20 dernières années, il y a moins de refoulement? On en parle plus, on dit, les médecins disent davantage aux gens, vous allez mourir, etc. Ou ça reste quand même un sujet très tabou?
Si, on a progressé, bien sûr, en 20 ans. Non, on a progressé, c'est sûr, mais il y a encore beaucoup à faire, hein. Parce que justement, la revendication actuelle de l'euthanasie ou du suicide assisté, c'est-à-dire d'une mort maîtrisée, décidée à l'avance, témoigne bien de cette peur. C'est bien parce qu'on a peur de la façon dont ça pourrait se passer, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas, qu'on essaye de maîtriser à l'avance. Je pense que ça mettra encore du temps. Mais on a progressé, bien sûr. Il y a 20 ans, on ne savait même pas ce que c'était que les soins palliatifs.
Hein. Oui, puis il y a 20 ans, je me souviens d'amis qui sont morts de cancer. Le médecin n'osait pas dire, même à la famille, il va mourir. On n'en parlait pas de ça. C'était presque... Alors qu'aujourd'hui, je crois que quand même, dans les diagnostics, les choses sont dites plus clairement.
Oui. Il y a eu, je pense qu'il y a eu, après la guerre, en fait, il y a eu quelque chose quand même d'un refoulement de la question de la mort, lié quand même aussi au... je pense aux guerres que nous avons eues, à toutes ces... Quand on parle beaucoup de la guerre de 14-18 en ce moment, mais je veux dire, il ne faut pas oublier que toutes les familles ont été endeuillées de gens jeunes. En fait, je veux dire, la mort a été hyper présente dans les familles. Il y a eu, et je pense qu'après, il y a eu une sorte de rejet, sans doute une réaction assez saine, hein, de rejet de tout ce qui touchait autour de la mort, ça, plus le progrès médical et scientifique...
Le désir de tout contrôler.
...qui a fait qu'on a reculé de plus en plus, finalement, la mort en guérissant les maladies, en étant... L'espérance de vie a augmenté. Je crois que c'est cet ensemble qui fait que, voilà, la mort a été progressivement complètement tabou.
Sur le toit de l'hôtel où je vis avec toi, quand j'attends ta venue, mon ami, quand la nuit fait chanter plus fort et mieux que moi, tous les chats, tous les chats, tous les chats. Que dit-on sur les toits, que répètent les voix de ces chats qui s'ennuient, des chansons que je sais, que je traduis pour toi, les voici, les voilà. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici-bas souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, la lune est là, la lune est là mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit, il faut la nuit mais le soleil ne le sait pas et toujours lui. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Papa dit qu'il a vu sa nuit. Des savants avertis par la pluie et le vent annonçaient un jour la fin du monde. Les journaux commentaient en termes émouvants les avis, les aveux des savants. Bien des gens affolés demandaient aux agents si le monde était pris dans la ronde. C'est alors que docteurs, savants et professeurs entonnèrent subito tous en chœur. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, mais le soleil attend. Et qui va devoir faire plein pour sa lune, chacun doit en faire autant. La lune est là, hein, la lune est là, hein, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, hein, il faut la nuit, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui, le soleil, rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, le soleil attend, papa dit.
Quand on vous lit, on se rend compte d'une chose très étonnante, c'est que, au fond, l'entourage a presque plus peur de la mort que ceux qui sont en train de mourir. Votre expérience montre que, surtout quand vous faites des accompagnements, que les gens sont quand même moins terrorisés par leur propre mort que par la mort des autres.
C'est tout à fait vrai. Oui, oui, c'est vrai. Et souvent, c'est ce qui augmente leur souffrance, c'est la souffrance des proches, de sentir qu'eux ne sont pas prêts, alors qu'eux, souvent, sont prêts.
Et est-ce que dans l'accompagnement que vous avez fait des mourants, vous avez vu qu'il y a quelque chose de l'ordre du spirituel, d'une évolution spirituelle qui se joue souvent chez les gens? C'est-à-dire que, est-ce que lorsqu'ils sont conscients qu'ils vivent leurs derniers instants, il y a comme un désir de plus grande sérénité, de poser des questions qui touche à des questions d'ordre un petit peu religieuse? Est-ce que vous sentez qu'il y a un travail qui se fait aussi en profondeur sur l'être, au-delà simplement de la relation avec ses proches?
Alors, il y a un retour du religieux chez les gens qui ont eu une pratique religieuse, c'est vrai, très souvent à la fin. Mais vous avez tous ceux qui n'en ont pas eu, hein. Et c'est pas pour autant que l'approche de la mort n'est pas spirituelle. Je pense que le fait, par exemple, de savoir dire au revoir, de laisser quelque chose, une bénédiction d'une certaine façon, une bonne parole à ceux qui restent, c'est spirituel. Le fait aussi d'avoir besoin de silence, ou bien peut-être de demander que l'on passe telle ou telle musique qui aide à s'intérioriser, qui aide, ou bien vous avez des gens qui méditent, oui, je crois que on voit quand même un mouvement qui est à la fois une intériorisation et en même temps un besoin de laisser de la paix derrière soi. Je crois que ça, c'est un désir profondément spirituel. On va partir, on veut partir en paix avec sa vie, en paix avec les autres, et on veut laisser les autres le plus paisible possible.
Est-ce que vous avez vu des gens mourir joyeusement ?
Joyeusement ? Non, je n'ai pas vu de gens mourir vraiment joyeusement. Bon, j'ai lu dans la littérature que ça existe. Non, j'ai vu des gens mourir très apaisés, avec le sentiment que c'était bien, que les choses étaient bien ainsi. Mais comme il y a toujours quand même du chagrin autour, que la séparation est quand même quelque chose de difficile, non, je n'ai pas vu vraiment l'émotion de joie. Non.
Et à l'inverse, est-ce que vous avez vu souvent des gens refuser totalement ou être totalement angoissés, paniqués par le moment de la mort, c'est-à-dire qu'il est quand même... une inconnue totale.
Eh bien, non plus. J'ai pas vu ça non plus. C'est assez étrange, mais c'est vrai que on a l'impression plutôt d'une sorte de, dans les derniers jours, d'une sorte de détachement qui va dans le sens d'ailleurs de l'apaisement. J'ai pas personnellement de rencontrer de personnes qui étaient terrifiées, sauf si quand même. Mais ça, c'était pas tout à fait au dernier moment, mais un peu en amont, des personnes qui avaient complètement dénié leur mort. Et au dernier moment, il y a des fantasmes de persécution, le sentiment qu'il y a la Gestapo dans la chambre, qu'il y a des bêtes féroces qui sont sous les lits, enfin, des images comme ça, qui montrent qu'il y a une certaine peur, effectivement, qui s'exprime. Mais là, c'est presque dans un contexte un peu psychiatrique, c'est-à-dire on est dans le délire. Hein, et c'est proportionnel au déni. C'est-à-dire, moins les personnes ont pu parler de leur mort, et plus elles sont sujettes à ce retour comme ça d'images très, très terrifiantes. Tout à l'heure, vous m'aviez demandé si je me souvenais de quelqu'un qui était joyeux. Je dirais que oui, quand même une personne, mais que je n'ai pas vue tout à fait à la fin, mais quand même un mois avant, c'était Sœur Emmanuelle. Sœur Emmanuelle, qui ne savait pas d'ailleurs qu'elle allait mourir un mois plus tard, mais il se trouve que je l'ai vue un mois avant, m'a dit qu'elle n'avait absolument pas peur de mourir, qu'au contraire, c'était un rendez-vous joyeux, justement, avec ce qu'elle appelait son fiancé. Mais qu'elle, par contre, elle avait très peur de l'agonie. Et quand je lui ai demandé, mais alors comment souhaiteriez-vous mourir ? Elle m'a dit, dans mon sommeil, car quand je m'endors, je me mets dans les bras de la Vierge. Et je récite le « Je vous salue Marie » et je voudrais mourir dans mon sommeil. Et bien c'est comme ça qu'elle est morte en fait. Elle est morte par surprise d'ailleurs, une nuit, dans son sommeil.
Alors justement, est-ce que vous diriez qu'il y a une différence du bien mourir entre ceux qui sont dans une forme de certitude, de foi, qu'en réalité la mort ce n'est qu'un passage et qu'ils vont retrouver autre chose ? De mieux d'ailleurs finalement, une sorte de libération, et au contraire ceux qui pensent que c'est vraiment une fin et que c'est le néant. Est-ce que dans votre expérience vous voyez une différence entre la façon de mourir?
Ça va vous étonner, mais je n'ai rencontré personne qui me dise dans les derniers moments c'est le néant. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont dit on ne sait pas, c'est le mystère le plus total. Et même une personne athée qui m'a dit « je suis curieuse de la suite », ce qui est une formule assez intéressante. Donc, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit « c'est le néant ». Non, les gens sont, au fond, je pense, plus agnostiques qu'athées. Par contre, c'est vrai que dans les personnes croyantes, alors, j'ai distingué dans mon expérience deux catégories, des personnes qui avaient une foi très vivante et qui, par exemple, le Sœur Emmanuel, qui étaient des personnes, alors là, la foi est un vrai soutien, mais vous avez des personnes qui ont une foi béquille et qui tombent au dernier moment. Et ces personnes sont envahies par le doute et sont presque plus angoissées que des personnes agnostiques. parce que c'est comme si tout d'un coup les certitudes qu'elles avaient eues s'effondraient. Et je me souviens de deux prêtres terriblement angoissés au moment de quelques jours avant leur mort, qui étaient ils n'avaient pas de peur particulière, mais ils étaient assaillis par le doute.
Peut-être, je pourrais vous lire maintenant un texte de Rainer Maria Rilke, qui est tiré du livre d'Heure, dans le chapitre, justement, qui concerne le dénuement et la mort, le livre du dénuement et de la mort, justement, dans lequel il prend cette idée, comme vous venez de dire, qu'il y a des différences, évidemment, chacun a sa propre mort. Et son idée à lui, c'est que ce qui est important, c'est d'avoir sa propre mort, véritablement la sienne. Et comme vous avez dit au tout début de l'émission, et d'accoucher de soi-même à ce moment-là. Mais évidemment, ça n'advient qu'après une longue vie de travail, de connaissance de soi. Ô Seigneur, donne à chacun sa propre mort, la mort issue de cette vie où il trouva l'amour, un sens et la détresse. Car nous ne sommes que l'écorce et que la feuille, la grande mort que tout homme en soi porte, tel est le fruit autour duquel gravite tout. Ô donne-nous celui qui trouvera la science de lier la vie en espaliers pour lesquels fleurira un printemps plus précoce. Donne à cet homme un long mûrissement, fais-le croître en vêtements toujours plus amples et donne-lui la solitude d'une étoile, afin que nul regard étonné ne l'outrage lorsque ses traits, en se fondant, mûront. Conforte-le de pure nourriture, de rosée, non de viande tuée, de cette vie qui, légère comme une prière et chaude comme un souffle, monte des champs. Fais qu'il retrouve son enfance, l'inconscience et les merveilles, et les contes chargés de richesses obscures des premières années où les pensées s'éveillent. Demande-lui alors d'attendre l'heure où il enfantera la mort, la souveraine, solitaire et murmurante comme un parc, comme quelqu'un qui, au loin, a mûri.
Alors maintenant, j'aimerais bien qu'on, pour la fin de cette émission, qu'on remonte un peu avant la mort et qu'on parle plutôt de la vieillesse, parce que c'est aussi un sujet qui vous tient à cœur, dont vous avez merveilleusement bien parlé dans des livres, des conférences. Vous dites, des choses se transforment, des choses, on ne peut plus être comme avant, il faut... Alors, qu'est-ce qu'apprendre à bien vieillir ?
Mais d'abord, je pense qu'il faut se dire que c'est une chance. Moi, tous les jours, je me dis, c'est une chance d'être en vie à mon âge. Parce que je pense à Christiane Singer, justement, qui est morte à 64 ans et qui aurait bien voulu vieillir, puisqu'elle avait écrit les âges de la vie et la vieillesse. Et je me dis que... Déjà, se dire que c'est une chance et que essayer de faire de ce temps de la vie qui se profile, qui est ici là, le bout, je veux dire, quelque chose qui soit intéressant, qui soit... se dire que c'est la chance d'un accomplissement, je crois, que d'avoir encore des années à vivre quand on dépasse justement les 65 ans qui sont... il ne faut pas oublier qu'il y a 40 ans, la moyenne d'âge était autour de 65-70 ans, hein, et que nous avons donc progressé énormément. C'est le temps d'un accomplissement, c'est le temps justement de peut-être aussi de s'intérioriser. Je crois que la vieillesse, c'est une expérience spirituelle. Et j'aime beaucoup cette phrase de saint Paul qui dit « Tandis que notre homme extérieur s'en va en ruine, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » C'est l'intériorité qui se renouvelle. Et l'aventure, elle est spirituelle, elle est intérieure. C'est sûr que sur le plan physique, je me souviens que Albert Jacquard disait « Je saute moins haut, je cours moins vite, mais tant que je peux fabriquer en moi des émotions nouvelles, ça vaut le coup de vivre et de vieillir, effectivement. » Donc, il y a... moi, j'essaye justement de conforter cette idée que vieillir, c'est pas uniquement une diminution. Ça l'est, bien sûr, sur le plan du corps.
Il faut l'accepter, d'ailleurs.
Et ça serait complètement ridicule de le nier. Il faut l'accepter, bien sûr, on n'a pas le choix.
Oui, mais il y a des gens qui cherchent par tous les moyens le jeunisme, exactement. Bon. Même par les opérations esthétiques à non plus finir, etc.
Mais c'est le meilleur moyen, d'ailleurs, de paraître vieux. Mais je crois qu'il faut l'accepter. Bah, par contre, il y a une croissance sur un autre plan. Et quand on a compris ça, qu'il y a tout un plan de l'être qui, au contraire, est appelé à croître, à ce moment-là, ça peut devenir une aventure passionnante. Et la croissance, elle est évidemment spirituelle, mais elle est aussi tout simplement sensorielle. Je suis émerveillée quand j'entends des personnes âgées me dire, me parler des émotions qu'elles ont quand elles regardent l'arrivée du printemps ou quand elles observent un animal, quand elles on observe d'une façon différente. On a l'impression que tous les sens sont ouverts, qu'on capte des choses que l'on ne captait pas plus jeune, parce qu'on était dans l'action, parce qu'on fait 5 choses à la fois.
Voilà, on a une qualité d'attention qui est meilleure, peut-être.
Voilà, qualité d'attention, une disponibilité. Mmh. Par exemple, la lenteur qui fait partie des choses qui sont liées à la vieillesse, mais c'est une qualité extraordinaire, la lenteur. Enfin, aujourd'hui, on la porte au nu, hein, on dit que le monde est trop pressé. Mais c'est vrai que ça permet de savourer les choses. Et puis, il y a aussi toute cette disponibilité aussi intellectuelle. Il ne faut pas oublier que stimuler son désir de connaissance, apprendre, lire, écouter des conférences, ça permet à nos neurones de se reconstituer en permanence. Aujourd'hui, on sait cela. On sait qu'on n'a pas un capital de neurones qui s'épuise. Ce n'est pas vrai, il se renouvelle en permanence. Donc, une personne âgée qui va lire, qui va voyager, qui va s'intéresser au monde, qui est curieuse de tout, qui va apprendre une langue. Par exemple, j'ai rencontré quelqu'un qui apprend le persan, ça va intéresser Lélie. Et je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit « parce que ça ne sert à rien ». J'ai trouvé cette réponse extraordinaire. Le plaisir d'apprendre. Bon, mais il faut toutes ces activités renouvellent les cellules. Donc, je crois que c'est l'âge où on peut-être aussi se permettre de faire des choses qu'on ne faisait pas avant, qu'on n'avait pas le temps de faire, des choses qui nous font plaisir, qui nous épanouissent. Donc, je pense que c'est un âge d'épanouissement potentiel.
Mais il faut l'avoir préparé quand même, parce que du jour au lendemain, on ne peut pas s'intérioriser et décider de devenir que mieux parce qu'on a atteint l'âge. C'est quand même une préparation qui se fait dans la jeunesse,
quand
non?
Quand on parle de vieillir, ça couvre 3 âges. Hein, 3e âge, 4e âge, 5e âge. Donc, je pense que c'est un temps long, effectivement. Mais c'est vrai que le travail, il y a un travail, parce qu'il est certain que, par exemple, des choses aussi bêtes que d'être pessimiste, de voir le verre à moitié vide, alors au lieu de voir le verre à moitié plein, ce sont des attitudes qui vous font dégringoler à toute vitesse. Donc, il y a un travail qui est aussi un travail un peu d'hygiène psychique, de tenue intérieure, qui est de savoir ce qui va aider à croître et de ce qui, au contraire, va favoriser le glissement, la dégringolade. Il y a des décisions à prendre. Moi, je pense que je vois des personnes âgées qui me disent « c'est tous les matins que je me réveille et que je décide d'être heureux ». C'est une décision parce que voilà, c'est une orientation de l'esprit, je pense que Frédéric est d'accord.
Oui, tout à fait, mais j'allais dire, il n'y a pas besoin d'avoir atteint la vieillesse pour comprendre conscience. Mais c'est vrai que probablement...
Mais là, ça devient urgent.
Voilà.
Et vous parlez d'ailleurs aussi de la puissance d'amour, y compris d'érotisme, en fait, des personnes âgées. Vous avez constaté qu'il y a une énergie nouvelle
c'est l'objet de mon prochain livre. Mais effectivement, je pense que le plaisir, l'amour, la rencontre charnelle aussi avec l'autre, le plaisir érotique fait partie de la longévité. Je crois que dans beaucoup de traditions, comme la Chine par exemple, continuer à faire l'amour, c'est vraiment quelque chose qui permet de vivre longtemps. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut non seulement encourager, mais il faut changer le regard que l'on porte sur la sexualité des personnes qui vieillissent. On a trop tendance à croire que c'est uniquement lié à la jeunesse. C'est complètement faux. J'ai rencontré encore la semaine dernière un homme de 90 ans qui me parlait de sa vie érotique. Eh bien, je veux dire, c'est une réalité respectable. Et quand on voyait le rayonnement qu'avait cet homme, ça ne faisait aucun doute que c'est quelque chose qui lui faisait du bien et qui...
Je peux en témoigner, mon grand-père est mort dans les bras d'une femme dans sa maison de retraite. Et il avait une réputation extraordinaire et il a vécu heureux jusqu'au dernier instant. Ça, c'est sûr qu'on a un regard social, comme vous le dites, qu'il faut souvent changer dans beaucoup de domaines, mais certainement celui-là.
France Culture, Les Racines du Ciel, Frédéric Lenoir, Lélie Onvar.
Vous avez parlé tout à l'heure de Christiane Singer, à laquelle on revient assez souvent dans cette émission. C'est vrai que nous l'aurions certainement invitée si elle avait été de ce monde. En tout cas, voilà, elle résume ce que vous venez de dire avec cette plume incomparable qui est la sienne, quand elle parle justement de toutes ces phases de la vie qu'il faut savoir prendre comme elles viennent dans leur mouvement naturel. De notre conception à notre mort, la vie est conçue comme un chemin d'initiation, un cycle d'expériences successives. La roue qui va tourner son grand tour est à chaque point où son cercle ferré touche le sol à son point de départ. Chaque instant est le début, chaque nouveau jour, chaque nouveau livre, chaque nouvelle rencontre. À chaque moment, nous commençons de neuf. La vie ne commence de faire mal, très mal, que lorsque nous ne laissons pas porter par son courant, lorsque nous tentons de nager à contre-courant. La vie fait mal, très mal, lorsque nous nous refusons d'en épouser le cours et les méandres. Refuser de mûrir, refuser de vieillir, c'est refuser de s'humaniser. L'humanisation passe par le relâchement du masque, par son amollissement. Refuser de mourir, c'est en somme refuser de devenir humain. Nous nous transformons alors en ces concrétions pierreuses, en ces calculs qui bloquent nos reins, qui bloquent le passage au flux de l'être, en ces statues liftées au seuil de la vieillesse. Retenir le flux de l'existence, c'est oublier que la vie est l'art de la métamorphose. Marie de Henzel, ce texte de Christiane Singer.
C'est magnifique, oui. Je l'ai écouté avec beaucoup d'émotion, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi.
Et qui a pratiqué, je crois, jusqu'à la fin, ce qu'elle disait.
Ah oui, son dernier livre, d'ailleurs, le dernier fragment d'un long voyage, est un livre vraiment magnifique sur l'approche de la mort, qui est un livre qui montre que malgré les souffrances et malgré, l'enfer, comme elle disait, un enfer zébré de grâce... il y a cette découverte de ce que nous sommes vraiment. C'est ce qui m'a frappée dans l'expérience de Christiane, c'est qu'à la fin, elle vous dit, l'amour, c'est pas seulement ce qui nous relie les uns et les autres, c'est ce qui est autour de nous. Nous sommes tous, finalement, les uns dans les autres.
Lélie Anvar, je crois que vous vouliez citer quelques livres pour terminer
cette
émission.
Et surtout, je voulais parler d'une journée de réflexion qui va se tenir à l'hôpital universitaire Necker Enfants Malades, qui s'intitule, alors c'est un sujet extrêmement difficile, auquel j'ai accepté de participer justement à cette journée, donc c'est pour ça que j'en parle, parce que je trouve que c'est un sujet très important, démarche palliative et fin de vie chez l'enfant. 15 ans de réflexion et de pratique à l'hôpital universitaire Necker Enfants Malades. Évidemment, ça engage un certain nombre de choses que nous avons dites ici et d'autres problématiques qui sont évidemment celles de côté absolument non naturel. Quand on meurt à la fin d'une longue vie, c'est normal, mais un enfant qui meurt, comment se confronter à ça? Alors c'est organisé entre autres par le docteur Pierre Canouy que nous avons reçu l'année dernière pour nous parler de Paul Diehl. Et il y aura des pédiatres, des psychiatres, des pédopsychiatres, mais aussi des gynécologues, des chirurgiens, des neurologues, etc. Donc ils viendront faire part de leur expérience et de cette difficulté extrême quand il s'agit évidemment de savoir si on arrête un traitement chez un enfant très jeune, etc. Donc alors c'est un sujet très difficile, mais je pense que c'est très important d'en parler. C'est pour ça que je cite cette journée. Ça se passera le samedi 17 janvier de 8h45 à 18h. Alors, ce sera entre l'hôpital universitaire Necker Enfants Malades et l'université Paris Descartes. Donc, nous mettrons tous les détails sur le site des Racines. Alors, beaucoup plus léger, je voulais citer un livre très amusant à lire. C'est sur la fin de vie aussi. Ça s'appelle « La mort des grands hommes, dictionnaire historique ». Et c'est un dictionnaire donc qui est écrit par Isabelle Bricard, publié aux éditions du Cherche Midi. Et en fait, c'est un dictionnaire vraiment avec des entrées. Avec les entrées, c'est les noms des grands hommes, évidemment, avec toutes les anecdotes autour de leur mort. Comment ils sont morts, de quoi ils sont morts, où ils sont enterrés, et ce qu'ils ont dit pour de vrai ou de manière légendaire, évidemment, avant de mourir. Alors, il y a des choses très graves, l'azur de Mallarmé, etc. Mais il y a aussi des choses beaucoup plus drôles de personnes, par exemple, qui vont être guillotinées et qui cornent la page à laquelle ils sont dans leur lecture. Enfin, voilà, des petites anecdotes sur la mort, qui sont des anecdotes tragiques ou comiques, mais c'est une lecture évidemment très amusante, à butiner de temps en temps, quand on veut savoir comment est mort un grand homme et ce qu'il a dit avant de mourir.
Merci Lélie, merci beaucoup Marie de Henzel. C'était un plaisir de vous recevoir à nouveau aux Racines du Ciel. C'était Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant 1000 jours. Très bon dimanche à tous.